marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Comme à chaque étape, vous serez emporté par le flot puissant de l'histoire.
Notre témoin de ce vendredi, Adrian Masset, la Nouvelle-Zélande.
Olivier, salut.
Salut.
Tu pars ou t'arrives ?
Je pars.
Où tu vas ?
En Nouvelle-Zélande.
C'est loin, non, la Nouvelle-Zélande ?
Ah oui, c'est très loin, tu peux pas aller plus loin.
Partez très exactement du Mans. Allant vers l'ouest ou l'est, vous arriverez en Nouvelle-Zélande après 36 heures d'avion et 20 000 km. La Nouvelle-Zélande est la première nation à avoir créé un welfare state, une sécurité sociale prenant soin de ses citoyens du berceau à la tombe. La Nouvelle-Zélande, c'est d'abord deux îles, 1600 km de long et la moitié de la superficie de la France.
La cathédrale de Paris était en construction depuis longtemps et le peuplement de la Nouvelle-Zélande n'avait pas encore commencé. Les Maoris la rejoignirent en pirogue depuis la Polynésie seulement dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Les Européens vinrent plus tard. C'est à un moment récent, dans une histoire courte, qu'elle entra dans l'Empire britannique pour en sortir dans la seconde moitié du XXe siècle. La Nouvelle-Zélande aime se présenter en jeune pionnière. Elle vient de lancer avec la France un manifeste pour prévenir le téléchargement des contenus terroristes sur le net. À cette fin, sa première ministre, Jacinda Ardern, était à l'Élysée mercredi. Au lendemain des tueries de Christchurch, le monde a découvert cette femme de 38 ans qui se veut positive en toutes circonstances et s'inscrit dans le sillage d'un progressisme de longue durée. Dès 1893, la Nouvelle-Zélande a accordé le droit de vote aux femmes. Il y a un féminisme des antipodes. Dès 1935, le parti travailliste, celui auquel appartient aujourd'hui Jacinda Ardern, commença à construire l'État-providence et la sécurité sociale. Il faut ajouter que c'est le même parti travailliste qui, retourné, lança une expérience radicale de néolibéralisme. Toujours le caractère pionnier. Le démantèlement du modèle social avait alors pour but de rendre l'économie néo-zélandaise compétitive dans la région. Le pays est tourné dorénavant vers le Pacifique et l'Asie. C'est l'économie asiatique, notamment chinoise, qui est devenue déterminante pour lui. Dans le même temps où pivotait le centre de gravité, l'immigration s'est développée. Elle est extrêmement diverse, comme en a témoigné la liste des victimes de Christchurch. Mais là encore, l'Asie domine. La population asiatique va bientôt supplanter en nombre les Maoris. Face au multiculturalisme qui gagne, beaucoup de Néo-Zélandais insistent sur le biculturalisme. Le pays s'appelle aussi Aotearoa. Le Maori est langue officielle. Et des Maoris, on attend qu'ils nourrissent la nouvelle mission que cultive la Nouvelle-Zélande. Expérimentatrice naguère de l'État-providence, elle voudrait être demain aux avant-postes de l'écologie. Ne se tient-elle pas au milieu d'un océan dont l'écrivain Maori Witi Iimaera dit « Il est le grenier de nos âmes ».
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Adrian Masset, bonjour.
Bonjour et merci de m'avoir invité à l'émission.
Et une émission qui n'est pas filmée, comme ça vous n'avez pas dû endosser le costume de l'ambassadeur que vous avez longtemps été à Bangkok, à Paris même. Vous avez raccroché maintenant la veste.
Oui, j'ai accroché la veste et c'est bien d'avoir un peu plus de liberté de la parole, je pense.
Eh bien, on va l'expérimenter. Vous êtes en séjour pour plusieurs mois à l'Institut d'études avancées de Nantes, c'est-à-dire que vous êtes avec un certain nombre de chercheurs, parce que vous êtes devenu chercheur en résidence dans un bel endroit, et vous travaillez en contact avec d'autres universitaires de haut niveau d'un peu tous les pays.
Oui, c'est ça. L'IOA, c'est le modèle de Princeton qui a été adopté, et pour une fois, c'est dans une institution hors de Paris. Et nous avons donc une vingtaine de chercheurs de tous les pays et de toutes les disciplines. Nous sommes tous là pour faire notre propre travail, mais aussi pour s'enrichir des travaux des uns et des autres.
Promotion Mendès France, 1976-1978. L'ENA était alors uniquement à Paris et vous en étiez élève étranger.
C'est vrai, j'étais le premier élève néo-zélandais de l'ENA. Et j'ai pu donc faire ce stage à l'ENA juste avant mon poste à l'ambassade comme deuxième secrétaire. C'est mon premier poste diplomatique.
Et alors maintenant que vous êtes libre, vous pouvez dire un mot de la réforme ou de la suppression éventuelle de l'ENA ?
Enfin, pour moi, d'abord, l'ENA, c'était une expérience très enrichissante, extrêmement utile. Et j'ai beaucoup profité, je crois, des contacts avec les élèves. Quand je vois maintenant les critiques à l'égard de l'ENA, ma réflexion, c'est que l'ENA a bon dos. C'est le symptôme. L'ENA, c'est le symptôme de cet état très, très centralisé. Une mentalité très centralisée. Donc, je pense qu'à réformer l'ENA, il faudrait peut-être d'abord commencer par réformer cette idée ultra-centraliste.
Bon, je vous arrête dans vos propos trop libres à cet instant, Adrien Masset. On va parler, tiens, un peu de votre famille et de ses origines. La Nouvelle-Zélande appartenait à l'Empire britannique. Le gouverneur anglais, en 1914, a proclamé la guerre sur le seuil de son palais dans la capitale, Wellington, et quelques 100 000 Néo-Zélandais, à l'époque il y avait 1 million d'habitants, sont partis servir à l'étranger, en Afrique du Sud-Est, au Proche-Orient, et pour une bonne part en Europe, dans les Dardanelles, et puis aussi à Ypres et dans le nord de la France, ainsi au Quesnoy.
Je peux vous dire que la population du Quesnoy est attachée à cette libération de notre ville par les troupes néo-zélandaises. Il faut dire que l'occupation allemande pendant ces 4 ans avait été extrêmement dure et que l'arrivée surprise des soldats néo-zélandais grimpant sur les murailles avec des échelles a fait l'effet d'une victoire inattendue, mais ô combien précieuse pour la population.
Quelques 12 kilomètres de rempart ceinture, cette ville du Quesnoy, où vivent encore 5000 administrés. Alors, sans aller jusqu'à des siècles reculés, plongeons il y a très exactement 96 ans. Si on allait un peu plus sur la gauche, sous le beffroi, c'est un géant qui nous accueillerait, mais pas n'importe lequel.
Oui, c'est un géant maori qui témoigne de nos relations d'amitié avec la Nouvelle-Zélande.
Évocation dans une émission d'Alexandre Hérault sur France Inter de la libération par l'Anzac, par les Néo-Zélandais de l'Anzac, en novembre 1918, du Quesnoy, où il y a une rue Masset.
Oui, c'est vrai. Enfin, il y a une longue histoire avec le Quesnoy. Je crois que ce qui est resté dans les mémoires des habitants, c'est que la manière qu'a choisi les Néo-Zélandais de reprendre la ville des Allemands, ils ne voulaient pas bombarder la ville pour éviter les pertes civiles, mais ils avaient donc trouvé une échelle, alors ils ont monté, ils avaient des fortifications de Vauban à franchir, ils sont montés par les échelles, et pour pouvoir être dans la ville sans pertes civiles, comme j'ai dit, et le premier néo-zélandais au-dessus donc des remparts de Vauban venait de la ville de Cambridge, et nous avons maintenant un jumelage entre le Quesnoy et Cambridge, et une longue amitié entre le Quesnoy et la Nouvelle-Zélande depuis cette époque.
Alors, ils rentrent en Nouvelle-Zélande, les combattants, ils rentrent au home. C'est quoi le home, d'ailleurs, pour les Néo-Zélandais dans les années 20-30?
Moi, je dirais que même jusqu'aux années 60, c'était extraordinaire. Il y avait des gens qui étaient nés en Nouvelle-Zélande, leurs parents, leurs grands-parents nés en Nouvelle-Zélande, mais qui utilisaient le mot « home » pour la Grande-Bretagne. C'est-à-dire, c'est comme si nous, c'était une colonie. Maintenant, je pense que ce n'est plus le cas. Il n'y a plus aucun Néo-Zélandais né en Nouvelle-Zélande qui dirait que la Grande-Bretagne, c'est « home ». C'est maintenant bien chez nous.
Oui, mais de Dominion, vous êtes devenu de plus en plus autonome et indépendant, même si vous n'êtes pas une république, même si par référendum vous avez gardé un drapeau avec l'Union Jack, même si Elisabeth est encore la souveraine.
Oui, c'est vrai. Il y a eu un affranchissement, je pense, par étapes de la tutelle britannique. La dernière étape, en fait, c'était notre dernière instance d'appel, c'était le Privy Council, la cour privée, donc à Londres. Mais depuis 2003, nous avons notre propre instance d'appel. Et peut-être le dernier acte d'allégeance à la couronne britannique pourrait être vu comme les guerres des Malouines, où nous n'avions rien à voir avec cette histoire. Mais notre Premier ministre a cru bon d'expulser l'ambassadeur d'Argentine en 1982.
Alors, je reviens un petit peu en arrière, au temps où la Nouvelle-Zélande, économiquement, on va parler économie maintenant, était la ferme de l'Empire britannique. Olivier Todd a donc fait un reportage en 1968 pour la télévision française pour 5 colonnes à la une et rencontrer un valeureux fermier, vous savez, de ces fermiers frugaux, économes, sportifs, entourés de moutons providentiels.
Un Néo-Zélandais, 30 moutons. Car la Nouvelle-Zélande, c'est avant tout, surtout, partout, à en rêver chaque nuit quand on est là-bas, 51 millions de moutons. Dave Irwin, 43 ans, est fermier et acheteur de moutons.
10-35, Bob! Yes! 10-35 and 3! Break, break! 35 and
6. Irwin parcourt un pays qui tient de la Suisse et de l'Arizona, de la Norvège et de la Polynésie. Mais la zone d'influence commerciale d'Irwin ressemble à un comté anglais. Elle est au nord de Wellington, la capitale, qui doit sans doute son nom au fait que le duc de Wellington ne s'intéressa jamais à la Nouvelle-Zélande. Après les Américains, les abattoirs néo-zélandais sont les plus modernes du monde. La Grande-Bretagne est le premier client de la Nouvelle-Zélande pour une viande un peu grasse et un beurre un peu margarineux.
Bon, je vais pas vous faire commenter la qualité du lait et du beurre de la Nouvelle-Zélande. Ce temps est si lointain d'ailleurs, Adrian Massé. Le détachement par rapport au Royaume-Uni, est-ce qu'il a commencé quand le Royaume-Uni est entré dans le marché commun et qu'il a fallu trouver un statut pour la Nouvelle-Zélande dans les nouveaux échanges commerciaux?
Ben, je pense certainement, parce que c'était vraiment une nécessité pour notre survie. On a vu qu'on ne pourrait plus être le grenier de la Grande-Bretagne. Donc, nous avons commencé à chercher dès ce moment d'autres marchés. Et d'ailleurs, quand on considère que avant l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun, je crois que 70% ou 80% des exportations partaient sur la Grande-Bretagne. Maintenant, il n'y a plus que moins de 4% qui vont à la Grande-Bretagne. Donc, on s'est beaucoup diversifié vers l'Asie, l'Amérique, le Pacifique, etc.
Et vous dites avec humour qu'au fond, maintenant, la Grande-Bretagne s'étant retirée, la Nouvelle-Zélande a davantage de relations avec la France. Tenez par exemple au moment du Rainbow Warrior. Les services secrets français font sauter un bateau de Greenpeace à Auckland et ce bateau patrouillait pour militer contre la politique nucléaire de la France. Eh bien, vous avez eu plus de relations avec la France à ce moment-là qu'avec la Grande-Bretagne.
Ben oui, c'est vrai. En fait, là, c'était une relation plutôt tendue, sauf peut-être pour le rugby, qui ont toujours gardé de très bonnes relations sur le sport. Mais certainement, mais c'est une période où on a eu quelques difficultés aussi avec un autre membre du P5, du Conseil de sécurité, les États-Unis. Il y avait un conflit avec les États-Unis au sujet du nucléaire encore. On ne voulait pas accepter un bateau de guerre américain dans nos ports qui pourrait porter des armes nucléaires. Donc, on était en fait expulsés de notre alliance de défense, l'ANZUS. Il y avait l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis. On se trouvait donc en conflit avec les Américains, en conflit donc avec la France sur toutes les questions du Rainbow Warrior, un peu aussi sur la décolonisation française dans le Pacifique, les nouvelles Hébrides à l'époque, qui sont devenues le Vanuatu. Et autre facteur, vous avez mentionné nos liens avec la Grande-Bretagne, mais au moment du conflit avec la France sur le Rainbow Warrior, les Britanniques nous ont donné aucun soutien. Donc, je crois que ça a augmenté le sentiment en Nouvelle-Zélande, on devait quand même faire notre propre chemin.
Vous n'êtes plus en Occident, au fond.
Je ne dirais pas ça. Je dirais que nous avons eu des identités croisées. Et à un certain moment, nous nous sommes réclamés comme Européens, comme nous cherchions à garder l'accès pour notre beurre et notre mouton en Europe. Partage de valeurs, bon travail fait pour la démocratie dans le Pacifique Sud. Mais au moment de ces conflits, on est peut-être devenu plus un pays pacifique, du Pacifique, j'ai envie de dire. Mais ensuite, il y a une autre évolution économique autant qu'autre chose, donc un pays de l'Asie. Mais maintenant, je pense finalement, on s'est affranchi de tout cela et nous n'avons plus besoin de nous faire identifier à partir de grands blocs ou de régions. Nous sommes
ce
nous-mêmes.
Qui vous donne accès plus facilement qu'à d'autres et plus d'une fois au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais maintenant, il faut qu'on parle des clivages internes en Nouvelle-Zélande et qu'on fasse leur place aux Maoris. Le nom de la Nouvelle-Zélande en maori, c'est
Aotearoa, pays du long nuage blanc.
La conscience nationale est venue chez les Maoris progressivement, peut-être au contact des Britanniques. Tenez, un moment de contact, c'est une découverte pour vous comme pour moi. Nous sommes en 1927. On reviendra ensuite au temps présent. Une chanson d'amour par Anna Ato, enregistrée à l'occasion de la visite en Nouvelle-Zélande du duc et de la duchesse d'York.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
La Nouvelle-Zélande d'Adrian Massey et maintenant la Nouvelle-Zélande des Maoris. Je pense que cette chanson était tout à fait audible pour les royales oreilles du duc et de la duchesse d'York en 1927, mais l'histoire des relations de la couronne avec les Maoris n'a pas toujours été facile. Donc, les Maoris sont quand même là depuis peu de temps si on compare aux aborigènes en Australie, par exemple.
Oui, c'est vrai, vous avez mentionné la coïncidence avec la période de la construction de Notre-Dame de Paris. En fait, c'est ça, ils sont arrivés au XIIIe siècle, vers la fin du XIIIe siècle.
Mais enfin, les Britanniques sont arrivés plus tard. Et alors, comment ça s'est passé, les rapports autour de la propriété? Est-ce que ça a été aussi difficile? Est-ce que ça s'est résolu, entre guillemets, de la même façon que en Nouvelle-Calédonie voisine? Enfin, quand je dis voisine, tout est relatif dans cette région.
C'est très, 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 très différent de la Nouvelle-Calédonie et de l'Australie. D'abord parce que la base de la colonisation britannique, c'était un traité avec la couronne britannique, avec la reine Victoria, qui disait on
traité de 1840.
1840, et c'est toujours la base constitutionnelle de notre pays, des relations entre la couronne et les Maoris. D'abord, la Maori cédaient la souveraineté à la reine Victoria. Ensuite, ils avaient jouissé de tous les droits des citoyens britanniques. Mais l'autre principe qui a causé des difficultés, ils donnaient à la couronne un droit de péremption sur la vente des terres. Ils restaient propriétaires de leurs terres, mais ils donnaient donc une péremption exclusive à la couronne pour l'achat de terre. On a eu énormément d'abus, il y a eu des confiscations de terre, des ventes illégales. Donc les Maoris se sont sentis dépossédés de bien de leur terre. Ce qui a mené, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, à des guerres qu'on appelait autrefois les Maori Wars, les guerres contre les Maoris. En fait, maintenant, c'est des guerres au sujet de la terre.
Et l'exode rural a été très important chez les Maoris. Ils sont nombreux dans les villes, dans les emplois industriels, dockers, ouvriers. Et les Maoris, il n'y en a pas dans l'île du Sud ou si peu.
Beaucoup moins dans l'île du Sud, mais la tribu de l'île du Sud a eu beaucoup de succès. J'ai pas parlé, enfin, pour essayer de remédier aux abus et aux maux. Il y a eu un tribunal qui s'appelle le tribunal de Waitangi.
C'est le nom du traité de 1840.
Oui, c'est ça. Ce tribunal, pour examiner les griefs, d'essayer de porter des remèdes par des compensations, rendre des terres aux Maoris quand c'est possible. Et les Maoris de l'île du Sud en ont bien profité de leur accord avec le gouvernement. Ils sont maintenant très prospères. Ils ont des activités économiques, par exemple dans le domaine de la pêche. Ils ont des forêts. Et ils font prospérer leur tribu pour pouvoir distribuer de l'argent à leurs propres membres.
Le maori est devenu langue officielle?
C'est vrai, une langue officielle et qui a eu de plus en plus de place dans les cérémonies officielles. Même, par exemple, dans une université, quand on commence une conférence, sans exception, il y aura une cérémonie de bienvenue maori, selon les rites maori, et à la fin, exactement la même chose. Donc c'est devenu quelque chose qui fait partie intégrante de la culture plus qu'officielle du pays.
Les rites maori, on a vu au moment de l'attentat, les musulmans frayaient de très près avec les maoris qui, pour leur exprimer leur solidarité, leur tiraient la langue.
Oui, c'est ça, ça fait partie des rites. Tout le monde ici connaît le haka, et donc tirer la langue, ça fait partie de haka. Ça, c'est une partie des cérémonies, quand on voulait recevoir des visiteurs. C'est devenu plus que ça, c'est devenu une manière d'exprimer donc une solidarité, et ça a joué après les attentats.
Alors, on sent que vous avez été ambassadeur dans pas mal de vos propos, Adrien Massé, mais voici qu'on va entendre un diplomate maori, Witi Imara, qui est aussi un écrivain important en Nouvelle-Zélande. La littérature en Nouvelle-Zélande est assez connue en France, notamment depuis une opération Belles étrangères, et souvent traduite par exemple chez Actes Sud.
Les histoires de Maori sont les histoires du Pacifique et elles sont des histoires indigènes, autochtones. J'ai intégré le monde de la diplomatie. En 1972, lors de mon premier recueil de nouvelles, Punamou Punamou, Norman Turk, et je tiens à rappeler que nous avons été seulement 4 diplomates maoris depuis lors. Et donc, partout donc où je vais, j'essaye de défendre, bien sûr, la politique de la Nouvelle-Zélande, mais en y mettant toujours une touche des questions des Maoris. Dans la conception du monde maori, nous avons ce concept qui est très fort, que ce magnifique océan Pacifique que nous appelons Te Moananui Akiva reste le grenier pour nos âmes.
Witi Imara au micro de Angia Ferry sur France Culture. L'océan Pacifique est le grenier de nos âmes. Alors parlez-nous de la Nouvelle-Zélande dans le Pacifique.
Oui, l'océan, ça évoque l'eau. Et si vous regardez une carte du monde, normalement, la Nouvelle-Zélande est tout en bas et à droite. Mais des fois, la Nouvelle-Zélande n'y figure pas du tout parce qu'on oublie. Mais si vous centrez une carte du monde sur la Nouvelle-Zélande, autour de la Nouvelle-Zélande, dans un rayon de presque 3000 km, il n'y a que de l'eau, l'océan. Donc l'océan, mais même plus, je crois, pour la spiritualité maori, ce sont les fleuves qui sont importants. Les rivières ont une très grande valeur spirituelle.
Alors, parlons d'abord des poissons de mer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous le disiez que c'était aux Maoris que revenait une partie du contrôle des quotas de pêche.
Oui, nous avons depuis les années 80 un système, c'est une innovation de la Nouvelle-Zélande, de gestion de quotas de pêche, qui fait que notre pêche est considérée comme une pêche durable.
Et alors, parlons des fleuves maintenant. Il en est un qui a fait l'objet de beaucoup de contestations, et c'est le principal fleuve de l'île du Nord, France Inter 2017.
Le fleuve qui traverse la Nouvelle-Zélande sur 290 km est désormais considéré comme une entité vivante. Le vote de la loi a été accueilli par les chants de dizaines de Maoris depuis les tribunes. Pour le ministre de la Justice, c'est aussi une reconnaissance de la lutte menée depuis 140 ans par les peuples autochtones. Dans son discours, Chris Finlayson emploie d'ailleurs le nom Maori du fleuve.
Il reconnaît le Te Awatupua comme une personne légale, avec tous les droits, les responsabilités et les devoirs qui correspondent.
Les intérêts du fleuve pourront être défendus devant la justice par deux représentants, un membre du gouvernement et un membre de la tribu Iwi. Le peuple maori ne devient pas propriétaire du fleuve Wanganui, mais son gardien pour les générations futures.
Alors imaginons un litige, Adrien Massé, les deux représentants du fleuve peuvent porter plainte au nom du fleuve.
C'est vrai, oui. On peut voir que c'est une construction, peut-être une fiction juridique, mais l'essentiel, c'est que ça garantit l'intégrité de tout l'écosystème du fleuve. Et donc, ça n'exclut pas l'exploitation de la fleuve pour des raisons commerciales, ce qui fait qu'il y a une valeur indépendante de cette intégrité. Et c'est important parce que c'est très lié à la spiritualité. Quand vous êtes en présence de Marie et il veut s'identifier, il y a trois éléments qui viennent de la nature, le fleuve, la montagne et la terre. Et le fleuve est considéré comme un ancêtre Donc c'est une interrogation avec l'aspect, la dévision spirituelle des Maoris. Et justement, il y a eu des dépradations, on a utilisé pas mal de l'eau pour un barrage hydroélectrique, d'autres sources de pollution. Mais maintenant, s'il y avait une proposition de l'exploiter, donc l'avril de quelque manière que ce soit, il y a un intérêt représenté, c'est l'intérêt, donc, quand on dit du fleuve, c'est, à mon avis, c'est tout l'écosystème qu'on ne comprend pas ce concept.
Votre dernier poste de diplomate était celui d'ambassadeur sur le thème du changement climatique et à l'Institut d'études avancées de Nantes, où vous séjournez jusqu'à cet été, vous travaillez au sujet lié au changement climatique. Et vous avez posé la question à vos collègues, à la lumière de ce que vous venez de dire, par exemple. C'est quoi la vie, alors ?
Ben, je pense que ce qu'on apprend de la culture maori est très similaire aux idées de terre-mère qu'on trouve dans pas mal de civilisations, surtout en Amérique latine. Ce qui est intéressant pour nous, c'est un concept qui est utilisé, qui est mis en œuvre par un pays de l'OCDE, donc un pays industrialisé. C'est non seulement dans le domaine du changement climatique, mais aussi le prochain grand sujet, à mon avis, ce sera la biodiversité. Cette idée d'une intégration de l'homme à la nature, même quand on voit ce concept donc d'écosystème incorporé dans une personnalité juridique, on peut voir ça au niveau planétaire, l'intégrité donc de l'écologie de la planète, que ce soit pour les besoins de changement climatique ou de la biodiversité. Je crois que c'est un degré de connaissance qu'on avait peut-être manqué, mais qui revient en force maintenant.
Juste une dernière question pour finir, un peu assassine, Adrian Massey. Vous faites comme si la Nouvelle-Zélande était biculturaliste. Mais la Nouvelle-Zélande a tendance à devenir multiculturaliste. Demain, il y aura plus d'habitants d'origine asiatique que de Maoris. On a vu, lors du récent attentat de mars, combien de gens venaient non seulement de toutes les contrées de l'Asie, mais de beaucoup de contrées de l'Afrique. Vous êtes à 70 000 migrants globalement choisis l'année dernière. Bref, je ne sais pas si les Asiatiques s'intéressent beaucoup aux Maoris. Ils vont, eux, regarder au niveau planétaire les liens économiques et commerciaux que vous devez avoir avec l'Asie du Sud-Est, où vous avez été en poste, et avec la Chine, premier partenaire commercial.
Oui, il faut voir la Nouvelle-Zélande comme, quand on dit biculturel ou multiculturel, quoi qu'il y ait deux significations. Quand on voit la population de la Nouvelle-Zélande, c'est extrêmement divers. Auckland, et je crois qu'il est la grande ville la plus cosmopolite au monde. Nous avons la plus grande population océanique polynésienne du monde. Il y a 20% d'Asiatiques en Auckland. Donc, de facto, la Nouvelle-Zélande est multiculturelle dans le sens de composée de beaucoup de cultures. On a vu un peu la culture musulmane lors des attentats à Christchurch. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un conflit entre ce multiculturalisme et le biculturalisme? Est-ce que les Maoris risquent de perdre leur place légitime? Il y a certainement un courant, je dirais, très minoritaire qui a des points de vue dans ce sens. Mais je pense que ce qu'on est en train de voir, c'est un renforcement, donc, dont on a parlé, sur la présence des Maoris, par exemple, dans les cérémonies officielles, essaie de rehausser le niveau du Maori partout. Les écoles, par exemple, uniquement langue Maori, primaire et secondaire. Donc je pense que les deux peuvent faire bon ménage, en fait.
Merci à vous, Adrian Massey. Cette émission était réalisée par Audrey Ripouille, avec à la technique Guillaume Roux, et la préparation en a été assurée par Frédéric Martin. Thank you.
Thank you.